If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
En permanence, tu reviens à l'instant présent. Des fois, on a besoin de partir dans ses pensées, etc. Et à chaque fois, l'enfant, bim, il te ramène, bim, et maintenant, et maintenant, et maintenant. Et là, je suis dans une autre réalité encore. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça change. C'est incroyable. On se dit, je suis sous l'eau, je change les couches, je ne sais pas quoi. Tout ce qui peut être en lien avec un enfant de 1 an, par exemple.
Ouais.
Et en fait, l'enfant, il grandit tellement vite qu'on bascule vite dans une autre réalité.
Ça change à toute vitesse.
Ouais, c'est ça. Donc, on s'adapte. Mais en fait, ça change, il faut se réadapter.
Exécuté par qui ? Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi, je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Amaury, salut.
Salut Fabrice.
Welcome back dans mon micro.
Merci beaucoup. T'as vu, je t'ai pas appelé Florent comme la dernière fois.
C'est pas grave. Tu m'appelles comme tu veux. C'est pas un souci. Bienvenue. Pour les gens qui n'ont peut-être pas écouté ton premier épisode, donc ta deuxième fois effectivement au micro d'Histoire de Daron.
Ouais.
T'es passé à mon micro il y a 1 an et demi. Pour venir raconter, on va plutôt dire les débuts de ta paternité, parce que c'est ça, et le drame, parce que, tu vois, j'ai du mal à le sortir. Ta femme a fait une rupture d'anévrisme à 7 mois de grossesse, c'est ça si
je me trompe ? 7 mois et demi, ouais. C'est ça, une rupture d'anévrisme à 7 mois et demi de grossesse. Et donc, du coup, ce que je te racontais, c'était un peu l'expérience de la mort et de la naissance en même temps, quoi.
Incroyable. Merci pour cet épisode. Tu sais que ça fait partie des épisodes sur lesquels j'ai reçu le plus de témoignages, de messages. Je ne t'ai pas tout envoyé, tu vois. J'en ai envoyé quelques-uns, mais waouh. Wow. Ouais. Très précieux. Très, très précieux. Et effectivement, on en a un peu parlé sur la fin. Le départ et la mort de ta compagne t'a amené aussi à vivre une paternité un peu particulière. Ouais. Puisque t'es papa solo, en fait.
Ouais, je suis papa solo, c'est particulier.
Et t'es vraiment papa solo ?
Oui.
C'est-à-dire que tu me disais, on s'est recroisés à 2-3 reprises depuis ton épisode, et tu me disais, mais j'ai changé toutes les couches.
Ouais.
De Marthe.
Oui, alors, ouais, tout à fait. Oui, ça c'est juste, effectivement, je t'avais dit ça, parce que, effectivement, je suis vraiment papa solo, c'est-à-dire que, c'est ta question, je me suis pas remis en couple genre tout de suite, etc. Et d'ailleurs aujourd'hui je suis pas en couple officiellement, enfin pas ni officieusement, enfin je suis pas...
ni officiellement, ni officieusement. T'es pas en couple, quoi.
Ouais, c'est ça. Et effectivement, alors j'ai quand même été très aidé par les grands-parents, évidemment. Mmh. Enfin, évidemment, en tout cas, c'est pas le cas de tout le monde, d'ailleurs, mais en tout cas, heureusement, j'ai été aidé par les grands-parents. Mais effectivement, j'ai quand même vécu le quotidien tout seul avec un enfant. Et c'est vrai que je me faisais des fois la réflexion et la remarque. Je me dis, mais c'est incroyable. Quand j'ai des moments de mou, des coups de mou, je me dis, mais c'est incroyable, quoi. Je lui ai changé chaque couche, même si c'est un petit peu exagéré. Parce que, évidemment, sur la totalité, je sais pas le pourcentage de couches que j'ai changé, mais il y en a beaucoup. Oui. Donc, effectivement, c'est vraiment cette impression, ce sentiment de dire, j'ai changé chaque couche, je lui ai donné chaque cuillère, j'ai vidé chaque lave-vaisselle, j'ai étendu chaque machine. Et c'est vraiment un truc hyper. Donc ça, c'est le fonctionnel, mais il y a aussi la charge, ce qu'on appelle la charge mentale aussi, qui est énorme, en fait, de dire, mon enfant est malade, et c'est à moi que revient la charge de gérer ça, et il faut que je prenne des décisions. Et dans des moments un peu de crise, où c'était compliqué, je savais pas quoi faire, j'écrivais peut-être j'ai pas mal écrit à des amis d'Anne-Charlotte, donc Anne-Charlotte qui était ma femme.
Oui.
J'ai gardé le lien avec certaines. Et certains aussi, des amis hommes. Mais surtout aux amis femmes, je leur écrivais peut-être des fois à 4 personnes différentes. Je disais, mais là, je fais ça, qu'est-ce que je fais? Et j'avais plusieurs avis en même temps et ça me permettait de me canaliser dans une action, une décision à prendre sur l'instant avec un enfant malade, par exemple. Et donc, cette charge mentale énorme et ce côté physique aussi qui est énorme. Ouais. J'ai l'impression d'être j'ai eu peut-être un peu moins maintenant.
Marthe a 4 ans, c'est ça?
4 ans maintenant, ouais.
Okay.
Elle a 4 ans dans le 15 novembre. Mm. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai réalisé la sortie de ce film qui sort le 15 novembre, qui s'appelle Le Magicien, je sais plus quoi, Le Tour de Magie, ou je sais pas quoi. Mm. C'est l'histoire d'un homme qui a perdu sa femme et qui élève seul son enfant. Et je trouve ça fou, ça sort le 15 novembre.
Ouais. Effectivement, tu me parlais des couches et je trouvais ça intéressant parce qu'il y a un côté, comme tu dis, très fonctionnel et très...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Très pratique, quoi. C'est, oui. c'est du temps et c'est les mains dans la merde, pour le coup, ouais. C'est le cas de le dire, quoi. C'est
les mains dans le cambouis, quoi. Et clairement, et ça... C'est un bel exercice de revenir à l'instant présent, en permanence, tu reviens à l'instant présent. Des fois, on a besoin de partir dans ses pensées, etc. Et à chaque fois, l'enfant, bim, il te ramène, bim, et maintenant, et maintenant, et maintenant. Et là, je suis dans une autre réalité encore. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça change. C'est incroyable. On se dit, je suis sous l'eau, je change les couches, je ne sais pas quoi. Tout ce qui peut être en lien avec un enfant de 1 an, par exemple.
Ouais.
Et en fait, l'enfant, il grandit tellement vite qu'on bascule vite dans une autre réalité.
Ça change à toute vitesse.
Ouais, c'est ça. Donc, on s'adapte, mais en fait, ça change. Il faut se réadapter. Et aujourd'hui, je suis dans une autre réalité. Je change plus de couche. D'ailleurs, Marthe a été propre super rapidement. Elle est assez autonome, etc. Mais c'est encore autre chose. C'est une sollicitation énorme de questions, de jouer avec, de machin, de tout ça. Et en fait, c'est autre chose, mais ça reste quand même très, très dur, quoi.
En fait, je trouve ça assez génial, la petite enfance, parce qu'il y a un côté où tu le vois physiquement sur l'enfant. Et je trouve que, tu vois, pour les parents d'ados, je me fais la réflexion, moi, tu vois, en fait, tes enfants, ils sont plus autonomes, ils ont moins besoin de toi, tu vois, ils font moins caca dans leur couche. Donc c'est,
oui, j'espère,
c'est mieux. Il y a des trucs, Tu vois, pour moi, c'est plutôt psychologique à l'adolescence. Et de ce fait-là, tu le vois moins venir. Et pour autant, je trouve vraiment que c'est hyper intéressant de changer son comportement et par rapport à ton enfant, à certaines périodes de sa vie quand il devient plus grand, tu vois. Mmh. Mais pour autant, je crois que c'est super dur en tant que parent de projeter ça. Là où, en fait, forcément, tu vois, ta fille, une fois qu'elle est propre, elle est propre. Tu vois, t'as plus besoin, tu te dis, ok, ça c'est réglé, les oui. couches, c'est bon, quoi. Tes enfants ados, tu vois, je me faisais vraiment la réflexion de... Mes filles, elles ont 15 et 17 aujourd'hui. Mmh. Et ben, en fait, t'as pas le même rapport à tes enfants à 16 ou à 17 ans que quand ils ont 13. Parce mmh. qu'ils commencent un peu, ils commencent vraiment à devenir autonomes, ils veulent de l'autonomie, etc. Je trouve ça, c'est un peu plus insidieux de ce fait-là. Il faut réussir à prendre un pas de recul et se dire, ok, donc maintenant, de quoi il a besoin, ou c'est quoi les trucs que je peux changer ouais. dans mon comportement pour qu'il s'ajuste lui aussi, quoi.
Ouais, c'est plus subtil.
C'est trop marrant.
Ouais, c'est ça, parce que ça me fait penser au film, au livre « Vos parents ne sont plus vos parents
». Un livre que je recommande environ à chaque épisode. Ah, oui. Merci de le faire à ma place.
Non, mais c'est ça. Parce qu'en fait, plus l'enfant grandit, plus il est autonome, plus il devient une personne à part entière, moins il est dépendant de toi. Mais quand même, il l'est, parce que ça reste... Bah, 17 ans, ça ouais. reste 17 ans, quoi.
Ouais.
Et effectivement, je pense que c'est vraiment un travail sur soi aussi, avec l'ego aussi, de détachement, de lâcher prise. Je pense que c'est vraiment ça. Et le lâcher prise, il est dans son lien avec l'enfant, mais quand il est plus petit, je pense que le lâcher prise, il est plus dans l'acceptation, quoi. Ok, je change toutes les couches, j'ai les mains dans la merde, bah j'accepte. Bah vas-y, j'y vais, j'avance. Ok, je peux pas aller faire d'escalade 3 fois par semaine... Parce que bah, tant pis, c'est maintenant que j'apprends ça, je dois apprendre ça maintenant, et je le fais maintenant et je l'accepte. Et c'est vrai que quand ils grandissent, je pense que c'est... Enfin, j'ai pas vécu l'expérience, mais je pense que c'est plus psychologique, plus subtil. Ouais.
Et tu vois, s'il y a un conseil que j'aimerais donner aux jeunes pères, et que j'aurais bien aimé qu'on me donne, c'est en fait, profite de la petite enfance, même si t'as les mains dans la merde, parce que en fait, ça part à toute vitesse.
Carrément.
Et moi, il y a plein de choses que je ne regrette pas du tout de la petite enfance. mais il y a plein de choses que je regrette. Et en fait, j'avais un peu l'impression à l'époque de rejeter les trucs qui m'intéressaient moins pour ne prendre que les trucs qui m'intéressaient plutôt que d'accepter le tout comme un grand tout, justement, tu vois.
Ouais, tout à fait.
Moi, et je regrette. Pff, ça veut rien dire, tu vois. Mais c'est juste, je me dis, ok, j'aurais bien aimé qu'on me le dise, donc je le dis là, j'en profite.
Ouais.
Prends tout, en fait. C'est trop bien.
Ouais, exactement. Exactement. Et puis c'est un moment, j'ai l'impression de dire, c'est un moment béni de retour à soi. Mmh. Et je pense que c'est ça, ouais. Si tu acceptes, et sachant que ça n'a pas duré très longtemps, en fait, ça passe super vite, c'est encore ça.
Toute vitesse.
Et je crois qu'il y a un autre truc aussi, je l'ai beaucoup dit à l'époque, là je suis dans encore une autre période, donc on l'a dit, 4 ans, c'est différent, mais dans tous ces moments de petite enfance, etc., il y a une position aussi. C'est peut-être une généralité que je vais dire, mais il y a une position de l'homme aussi, donc je veux dire le couple classique, ce que j'aurais pu vivre finalement si Anne-Charlotte n'était pas décédée, j'aurais pris cette position de l'homme un peu classique que prennent beaucoup d'hommes, et je me serais pas rendu compte de ce que c'est vraiment, parce que peut-être que ma femme aurait fait davantage de couches, aurait fait davantage les bagages, aurait fait davantage les pique-niques, aurait fait davantage la préparation des repas et les courses, etc.
Elle aurait pris une place, quoi qu'il arrive.
Bien sûr, voilà, heureusement.
Que mais tu n'aurais pas eu besoin de prendre, tu vois.
Elle aurait pris cette place, mais ce que je veux dire, c'est que de manière très... c'est peut-être une généralité encore une fois, mais je pense que c'est beaucoup les femmes qui font ça. Et je comprends quelque chose que j'aurais pas compris autrement de la place de la femme.
Ouais.
Et de cette charge mentale énorme. Et j'en ai parlé à beaucoup d'amis, amis et eux, et elles me disaient, ben, super, mais tu devrais dire ça à mon mec, quoi. Tu devrais dire... il y a un moment que j'ai pas tenu ce discours, parce que c'était quand Marthe avait 2 ans, il y a 2 ans, quoi. Mais c'est une vraie réalisation pour moi. Mmh. C'est une vraie réalisation, et je suis presque devenu à un moment donné féministe, quoi, en me disant, mais waouh, wow, quoi, les mecs, réveillez-vous, quoi. Et il y a beaucoup de mecs aujourd'hui qui font, qui ne sont pas là-dedans aussi, hein, bien sûr. Mais...
Et tu vois, ce que j'essaie de. C'est trop intéressant ce que tu dis, parce que ce que j'essaie d'interroger aussi dans mon podcast sur les mères, dans l'histoire de Daron, c'est laisser aussi la place.
Tout à fait.
Laisser la place à ce que ce soit pas bien fait comme vous voulez. C'est ok, tu vois.
Oui, il y a le pendant de ça.
Et faites aussi attention à ça, parce que c'est un chemin aussi, c'est un chemin des deux côtés en fait, tu vois, de ok, bah moi je crois que j'ai déjà raconté dans le podcast, mais j'ai pris mes filles pour la première fois en vacances tout seul, elles avaient 8 et 10. Mmh. J'étais intimement convaincu, mais vraiment au fond de moi, mais je crois que j'y avais pas accès à l'époque, que j'allais en perdre une. J'allais en tuer une en passant.
Ah oui, j'allais pas
réussir à en prendre soin. Mmh. Et
parce que tu l'avais pas fait avant, peut-être.
Je l'avais jamais fait. Je les ai eus pendant. Je m'en suis beaucoup occupé, mais sur des journées, tu vois. J'étais tout seul avec elles, donc je savais le faire. Mais tu vois, de les prendre pendant une semaine, il y avait un vrai côté. Waouh, ok, donc ça va faire.
Responsabilité.
C'est 8 fois ou 7 fois une journée, tu vois.
Tu comptais, tu faisais des petites marques dans ta.
Non, mais je crois vraiment que j'étais parti avec un vrai déficit de confiance, tu vois, alors que je savais le faire. Et en fait, je me suis rendu compte en le faisant que, putain, je savais trop bien le faire, en fait. Certes, c'était pas comme quand leur mère était autour, parce qu'elle, elle a tendance à gérer, pas du tout comme moi, de façon beaucoup plus pragmatique, etc. C'était un peu plus YOLO, mais en même temps, c'était les vacances, et en fait, au final, ça s'est bien passé, tu vois.
Ouais, ça me fait penser à un truc, c'est que c'est faut presque passer, c'est comme des rites d'initiation, j'ai l'impression. C'est presque ça, ta semaine d'initiation, et moi, ce que j'ai trouvé, le meilleur moyen, en fait, que j'ai trouvé pour ça, et je le sentais, j'en avais besoin. En fait, si tu veux, si je refais la chronologie, donc Marthe est née le 15 novembre, et en fait, donc Anne-Charlotte est décédée en décembre, et ensuite 2020 est arrivé le confinement. Le mars 2020.
Wow.
Et donc c'était grosse claque, deuxième claque. En fait, je tendais la deuxième joue, j'avais une deuxième claque, et je me suis retrouvé un peu. Enfin, à l'époque, bah du coup, je suis allé chez mes parents parce que je pouvais pas me retrouver tout seul avec un enfant dans cette situation.
Ta fille avait 6 mois, quoi.
Ma fille avait 6 mois. Donc c'était compliqué. Et d'ailleurs, ça m'a permis de vraiment faire le point sur ma position d'homme par rapport à mes parents aussi. C'était vachement intéressant. Avec le recul, c'était dur, mais c'était hyper un bel enseignement.
Je veux bien que tu m'en parles après.
Ouais, je vais t'en parler, ouais, parce que j'ai vraiment fait un vrai acte, mais je te dis ça après. Donc il y a eu le confinement, et 2 jours après le confinement, j'ai acheté un Volkswagen Caddy Maxi. C'est un Volkswagen, c'est une grande voiture un peu rallongée dans laquelle on peut dormir, que j'ai aménagée sommairement, et je me suis dit, eh ben, je vais me faire ma semaine initiatique avec mon enfant, et je vais partir avec elle autour de la France, parce que j'avais besoin de souffler, j'avais besoin de me mettre en confiance et de me retrouver seul avec mon enfant. Et elle avait 8 mois, et je suis parti pendant 25 jours. On a fait 4000 km dans toute la France. Et là, pour le coup, je changeais vraiment. Ouais. Là, toutes les couches, c'était un truc de militaire. J'avais une boîte avec les couches, une boîte avec les petits pots. J'avais des trucs pour le lait, et je lui donnais tous les biberons froids, du coup, parce que j'avais pas le choix. Et donc, on a dormi à la fois dans la voiture, on a dormi chez des amis. Je suis allé dans les Cévennes, dans le sud de la France. Après, je suis allé voir des amis à Lyon, je suis allé à Genève. Enfin bref, j'ai fait tout un tour énorme. Alors ça me fait penser à un autre truc, et je te parlerai après de. Ça me fait penser à un autre truc, c'est que ces 25 jours, moi, c'était hyper bien. Enfin, genre, ça m'a appris mais vachement de choses. Mais ça m'a aussi appris que j'avais des limites. Et je suis sorti de ces 25 jours, donc fin juillet 2020, j'étais épuisé, quoi. Et ensuite, elle est allée quelques jours en vacances chez mes parents, et je crois que je me souviens, je suis moitié tombé malade. Enfin, j'avais un gros rhume carabiné et tout. Et j'étais cloué au lit pendant 2-3 jours. J'étais vraiment épuisé. J'ai été jusqu'au bout. Et ça m'a appris aussi à me dire, ok, donc c'est cool, tu peux faire des trucs qui vont t'apprendre des choses, mais fais attention, quoi. Et c'est des premiers signes où je me suis dit, waouh, il y a des limites. Mais ça, j'aimerais bien t'en parler après. Les limites à connaître, qu'on voit pas venir, et d'un seul coup, boum, on est HS, quoi.
Ouais, surtout en tant que mec, hein.
Ouais, peut-être, je sais pas, c'est un débat, mais moi, je pense que ouais, c'est encore plus dur.
On est un peu éduqué à aller dans le dur et à pas forcément se regarder, quoi, s'introspecter.
Ouais, et pourtant...
Si t'as fait ce taf-là, toi, j'imagine.
Ouais, je suis à l'écoute
par
quand
ton
même.
Expérience.
Je suis à l'écoute, mais je crois que j'ai besoin d'aller fort. Parce qu'il y a beaucoup de frustration, enfin, pour moi en tout cas, d'être avec un enfant. C'est frustrant, c'est-à-dire que bah, des fois on veut marcher vite, des fois on veut faire quatre boulots en même temps, ouais. On veut faire tout ça. Et en fait, bah, l'enfant te sollicite tellement que tu dois en permanence te limiter, ce qui est pour moi quelque chose de bénéfique parce que j'ai une tendance à la dispersion, à vouloir en faire beaucoup trop. Et donc ça me recentre et ça me met dans l'instant présent, donc c'est génial. Mais à un moment, des fois, on dit bah, c'est bon, quoi, j'y vais, quoi. Et j'ai vachement ces allers-retours et ces yo-yo, et il faut que j'apprends ça.
Ta fille t'apprend ça?
Ma fille m'apprend ça, tout à fait. Non, mais un enfant, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est vraiment un petit sage. Qu'est-ce qu'il disait ça?
L'enfant, c'est mon maître, quoi. Je crois que c'est un méditant, je ne sais plus qui. Et pour revenir sur les parents...
Merci de faire le lien.
Non,
c'est super, j'adore.
Non, parce que c'est important. J'étais donc on était en plein confinement, et là, je commençais... Enfin, bon, après, c'est très personnel, donc c'est ma relation à mes parents. Mais ça, c'était trop envahissant. C'est-à-dire que, par exemple, ma mère avait tendance à trop s'immiscer dans mon rôle de père. Si tu veux, c'est des choses qui... Et je lui reproche pas. Hein, et mon père aussi avait sa position. Enfin, la situation était difficile pour tout le monde. Et je sentais que je reprenais presque cette place de petit garçon. C'était insidieux. Hein, c'était subtil comme chose. Et je me suis dit, ça va pas en fait, ça me met mal, je me sens mal, j'ai l'impression de pas assumer assez mon rôle, j'ai l'impression d'être envahi et de plus avoir mon espace. Et donc mes parents avaient cette tendance à s'inquiéter, de dire mais pourquoi tu veux faire ça, mais comment tu vas faire, mais ça c'est une mauvaise idée. Et notamment cette idée qui commençait à germer de faire le tour de France avec ma fille, mais non mais tu te rends pas compte, etc. Et donc là j'ai dit ok. Alors, ce qu'on va faire, et donc là c'est très inspiré, finalement ce livre je l'ai lu après, mais c'est très inspiré de ce livre justement, Vos parents ne sont plus vos parents, parce que là c'était l'idée de dire, vous n'êtes plus mes parents à cet instant T. Je suis un adulte, j'ai une petite fille, certes on vit ensemble, mais il va falloir positionner les choses. Donc je les ai invités à une réunion le soir même à 18h30, j'ai dit on fait une réunion.
Donc, tu les as convoqués.
Je les ai convoqués, voilà, exactement, très bon, le terme est tout à fait adapté. Et en fait, je crois même que c'était un moment de sieste de Marthe où je sais plus, je crois que je l'avais couché. Non, c'était le soir plutôt, je l'avais couché. Et donc on se retrouve, on se convoque, telle heure, ok, telle réunion. Donc là, j'ai animé cette réunion. Mes parents étaient en face, moi j'étais de l'autre côté de la table de la salle à manger. Et j'ai dit, bah alors voilà, donc j'ai un tableau, donc en fait je note tout ce que j'ai en tête là, tout ce que je vais faire, tout ce que je projette de faire peut-être. Il y a une colonne point positif, genre c'est super bien de le faire, donc pourquoi, et point négatif, point de vigilance. Et donc, je disais, alors premier projet, par exemple, je souhaite partir avec Marthe tant de jours en itinérance avec une voiture et tout. Et donc quels sont les points positifs là-dedans? Alors, mon père disait, je trouve ça super pour telle raison, ma mère, etc. Et point négatif, ils ont tout mis. Et donc, j'ai listé, j'avais peut-être 8, 9, 10 points. Et suite à ça, je leur ai dit, alors, ce qui va se passer, c'est que vous allez me dire vos points positifs, vos points négatifs, que je considérerai, ils seront dits, je les assumerai, je les considérerai, et ensuite, je prendrai mes décisions. Et voilà, et maintenant, on n'en parle plus, quoi. Et ça...
Wow.
Ça
incroyable.
Ça a été un tournant pour moi, je sais pas pour eux, j'en ai pas reparlé avec eux depuis ça.
Mais c'est sûr et certain, non?
Je pense. Ouais.
En fait, à partir du moment où tu te positionnes, toi,
ouais,
forcément, ça les oblige à se repositionner aussi.
Oui, c'est sûr. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait un bien fou et ça, il y a eu clairement un avant et un après. Ouais. Ouais.
Bah, merci pour le tips. Parce que c'est, tu vois, je trouve ça tellement pratique. Comme
j'avais pas le choix en même
conseil.
Temps. J'étais là, c'est un petit.
Ah, si,
c'était un truc de survie parce que il fallait que je le fasse, quoi.
Mais si, t'avais le choix.
Oui, je pouvais ne pas le faire.
Pas le faire. Ouais.
Je sentais que voilà, c'était ça, quoi.
En tout cas, toi, en tant que personne, à ce moment-là, t'étais là, ça marche plus. Il faut faire autrement.
Ça marche plus parce que tu sais, en fait, si on se projette, les personnes qui écoutent se projettent dans cette histoire-là, tu rencontres une femme, tu te mets en couple, tu te maries parce qu'on s'est marié. Il y a une espèce de garde-fou. C'est-à-dire que tu crées un foyer, et en plus tu attends un enfant, donc encore plus quand tu as une vraie une famille avec des enfants. J'allais dire vraie famille, mais bon. Et tu as une espèce de garde-fou, c'est-à-dire que tes parents ont leur foyer, toi tu as ton foyer, etc. Et lorsque tout s'écroule, puisque c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est-à-dire que tout a disparu, comme je dis, comme dans Matrix, tout est devenu blanc autour de moi, il n'y avait plus rien, même sous mes pieds il y avait du vide, parce que tout a disparu d'un seul coup, j'avais plus que mon enfant dans les bras. Et tous ces garde-fous disparaissent. C'est-à-dire que tu es vulnérable. Et j'étais vulnérable à ce moment-là pendant le confinement avec mes parents. Et j'étais un enfant face à mes parents, quoi, en fait. Et j'avais besoin de sortir de ce rôle-là. Ouais.
On n'a pas trop parlé, tu sais, la fois passée du deuil, justement, de cette famille, comme tu dis, normale.
Ouais.
Parce qu'on a plutôt parlé de toute l'histoire qui t'a amené à avoir ton enfant, etc. Et c'est un truc dont j'aurais bien aimé causer avec toi. Et où est-ce que t'en es aujourd'hui aussi, 4 ans plus tard? Parce que j'imagine à quel point c'est un travail incroyable et long.
Oui, c'est long et surtout c'est pas linéaire. C'est ça, c'est clair et net. C'est comme même la frise chronologique qu'on apprend en cours d'histoire géo. C'est un peu une connerie, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas ça. Le temps, il est pas linéaire. Et le deuil, c'est pareil. C'est une sorte de, tu sais, c'est une sorte de boucle. C'est une sorte de boucle ascendante, quoi. Donc c'est, bah, par exemple, tu crois, tu sais, il y a les phases là connues du deuil, donc l'acceptation, je sais plus, la colère, etc. Je sais plus l'ordre. Mais en fait, cet ordre, il est pas linéaire. C'est-à-dire qu'on va le revisiter plein de fois. Donc à un moment donné je me dis ah bah c'est cool, ah bah là je suis en colère, ah bah là je suis dans la phase de la colère du deuil. Donc ça s'est fait, quoi. Mais non, pas du tout.
Mais c'est pas le même deuil à chaque fois, tu crois pas? En fait, pour moi il y a plein de micro-deuils. C'est à dire que tu vois, tu fais le deuil d'une certaine idée à chaque fois, pour moi. Tu vois, plutôt que de dire ok, je fais, t'as un gros deuil qui est ok, faut que je revisite cette histoire.
Ouais, peut-être, je sais. Et pas, je crois qu'il y a des sous-catégories du deuil.
Je crois, plein. Et en fait, t'es en permanence ramené à ça.
Bah, disons que je sais pas,
okay.
Mais peut-être, mais en tout cas, le deuil global, je sais pas comment dire, le deuil global de cette famille idéale, de dire, par exemple, d'imaginer bah, la mère de ma fille, comment elle aurait été à ce moment-là. Et ça, tu vois, c'est des trucs, par exemple, que j'ai eu l'impression de visiter quand elle était plus petite, me dire ah mais comment elle l'aurait bercé à ce moment-là, comment elle lui aurait donné le biberon ou le sein si elle lui donnait le sein, etc. Et ben c'est des choses qui sont revenues il y a pas si longtemps là, tu vois, il y a pas si longtemps. Marthe, elle dansait souvent, parce que c'est Marthe qui gère la radio à la maison. C'est super drôle. C'est une radio un peu old school que j'ai récupérée dans la famille d'Anne-Charlotte d'ailleurs. Et en fait il y a un petit interrupteur et des fois je lui dis, je cuisine et je lui dis bon bah Marthe, on met de la musique. Elle fait oui, et c'est surtout, je ne dois surtout pas l'allumer parce que sinon c'est la cata.
C'est son job.
Et c'est elle qui allume la musique et elle se met à danser. Et là, j'ai eu un espèce de flash, je me suis dit, et tu vois, je me suis dit, mais ah, c'est marrant, j'imaginais Anne-Charlotte danser avec elle ou se marrer pendant que je cuisinais, etc. Et ça m'a surpris parce que c'est des choses que je pensais que j'avais pas mal fait à un moment donné à l'imaginer avec. Et là, c'est revenu. C'est dans ce sens-là que je dis que ce sont des boucles. Alors, je ne sais pas quel deuil, sous catégorie ou pas.
Est-ce que ça t'a créé de la souffrance? Ou alors c'était plutôt un...
Parce que ça m'a créé une tristesse quand même.
Ok.
Ouais. Quand même une tristesse. Mais
la tristesse, c'est cool. Tu vois, je me dis juste...
Carrément.
Quand ça te crée pas de la souffrance, pour moi, c'est pas grave. Parce que pour moi, c'est ça le...
Mais même si ça crée de la souffrance, c'est pas grave. Enfin, tu vois...
Quoi qu'il arrive.
Ouais, parce qu'en fait, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup bossé. Je continue. De toute façon, c'est jamais fini. Attends, il y a deux choses que je veux dire, mais c'est que des fois, on a des coups de mou, en fait. Et en fait, ces périodes de rentrée, si tu veux, sont challenging pour Marthe, parce que tous les enfants lui disent, mais ils comprennent pas, mais elle est où ta maman? Pourquoi on voit que ton papa? Puis là, ils commencent à parler, les enfants, donc ça y va. Et Marthe, elle dit, bah, ma maman, elle est morte. Et là, les enfants, ils font... Enfin, ils comprennent pas, enfin... C'est-à-dire, enfin... Enfin, ils disent pas, c'est-à-dire. Peux-tu argumenter, Marthe, s'il te plaît?
Qu'entends-tu par la mort? Ouais. Entends-tu ce long sommeil?
Le long sommeil. Et donc, Marthe dit ça, et donc, tous les soirs. Parce qu'en fait, c'est aussi ça. Quand, là, tout se recoupe. Je voulais te parler des limites. En fait, j'ai eu une période vraiment où j'étais hyper fatigué. J'étais un peu malade et j'arrivais pas à tout gérer au mois d'octobre.
Septembre.
Ah. Bah, septembre, c'était vraiment très, 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 très intense. Je l'ai pas senti venir. Et octobre, boum.
Okay.
Gros coup de mou. Et c'est pour ça que je te disais que le deuil est une sorte de spirale ascendante, puisqu'en fait, on revisite selon nos formes du moment, etc. On revisite des trucs plus ou moins intensément. C'est pour ça, après, je sais pas si ce sont des micro-deuils ou des gros deuils, ou je sais pas. Mais en tout cas, pour revenir sur l'école. Tous les soirs, Marthe me disait « Papa, j'en ai marre que les enfants me parlent tout le temps de ma maman. » Et en fait, c'est pas comme de la souffrance que sa maman ne soit plus là, c'était une sorte de lassitude qu'on lui parle tout le temps de ça. Et que son identité ne soit reliée que à ça. Enfin, pas que à ça, mais beaucoup à ça. Et elle me disait « Est-ce que tu pourras dire à la maîtresse que j'en ai marre que mes copains, ils me disent que... Ils me demandent où est ma maman, quoi. » Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une réunion de rentrée
avec tous les parents de petite et moyenne section avec la maîtresse. Et Marthe, vraiment perspicace, me dit. Donc je lui dis bon, bah, ce soir, tu auras la babysitter. C'est encore un autre sujet, ça. L'organisation et le babysitting et tout ça. Mais le babysitter vient et du coup, je vais à la réunion des parents dans ta classe, je vais voir ta maîtresse. Elle me dit, oui, est-ce que tu pourras dire à la maîtresse, s'il te plaît, que j'en ai marre, que mes copains, ils me parlent tout le temps de ma maman. Et là, je lui dis, ok, bon, bah d'accord, je vais le dire. Et ça m'a mis une pression. Parce qu'en fait, on était tous ensemble dans la classe sur les sièges de petits, tu vois, à écouter la maîtresse. Puis à un moment donné, elle dit, est-ce que, voilà, on a vu à peu près tous les points, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Et là, j'ai mon cœur qui s'est mis à battre super vite. Je me suis dit, ma fille m'a missionné de ce truc, je ne peux pas ne pas le faire, quoi. Et je me suis dit, c'est le moment. Et donc là, j'ai parlé. Je dis, oui, alors je voudrais parler de quelque chose. Donc il y avait tous les parents, t'avais la maîtresse. Je voudrais parler de quelque chose par rapport à Marthe, etc. Et donc, ça l'ennuie. En même temps, je veux pas empêcher les enfants de parler parce que c'est pire, tu vois, si tu dis à un enfant, ne parle pas de ça, bah, forcément, ça va créer un traumatisme ou je ne sais quoi. Donc je voulais pas empêcher ça. Je voulais juste dire, écoutez, voilà, Marthe, ça l'embête. Elle m'a demandé ça. Et ce que je voulais suggérer, ce serait de faire venir une psy pour enfants dans la classe pour parler de la question de la mort. Et
incroyable.
Et tout le monde me dit, tout le monde était plus ou moins OK. La maîtresse dit oui, c'est une bonne idée, OK. Et donc tout le monde était un peu au courant et tout le monde disait ah mais c'est vrai qu'elle m'en parle beaucoup de Marthe à la maison. Enfin, tout le monde avait son petit truc, quoi. Il y en a qui disaient non, pas du tout, et il y en a qui disaient ouais, effectivement, elle en parle beaucoup. Enfin, il en parle beaucoup. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un rendez-vous avec cette psy Sophie Le Sur à Nantes, qui est super vraiment pour les enfants, que j'avais déjà vu un an avant. Et c'est là où j'ai réalisé, j'ai fait ah mais c'est marrant, c'est quasiment la même date. C'était à deux ou trois jours près, la même date. Il y a un an avant, et elle m'avait effectivement parlé de ça il y a un an, et j'avais oublié. Et je me suis aperçu que c'était une période compliquée. Et je me suis dit, bah oui, évidemment, on arrive au mois de novembre, son anniversaire, tout ça, la rentrée, etc. Donc tout fait sens. Donc je vois cette fameuse psychologue pour la troisième fois. En tout, trois fois. Il ne faut pas beaucoup de fois, en fait, mais c'était à chaque fois hyper efficace. Et la fois d'avant, c'est là où. Enfin non, je vais revenir, excuse-moi, je digresse totalement, c'est terrible, je me concentre. Donc je vois la psy et puis là j'en ai vraiment pleuré parce que c'était incroyable. Elle parlait à Marthe, elle disait... Alors Marthe, elle adore aller là-bas parce qu'il y a des... Enfin, il y a eu que trois fois, mais elle se souvient quand même qu'il y a plein de jeux. Et elle commence à jouer et puis la psy la regarde et elle la regarde jouer, et donc c'était assez émouvant déjà. Et moi j'étais un peu en retrait. Et là elle dit alors Marthe, tu sais pourquoi, mais est-ce que tu veux me dire quelque chose? Donc là elle dit rien, elle joue. Puis elle dit mais tu sais Marthe, je comprends que tu as dit à ton papa que tu en avais marre qu'on te parle beaucoup de ta maman. Mais oui, mais je comprends. Puis en plus ça te ramène à plein de choses que t'as pas envie de penser à ça tous les jours, etc. Puis Marthe elle joue, puis tu sais d'un seul coup elle s'arrête, elle se retourne à la tête à gauche, elle la regarde. Elle fait oui, bah oui. Elle dit en gros, bah oui, tout à fait. Elle écoute d'une oreille en jouant, puis c'était assez émouvant, cette espèce d'attitude de l'enfant qui s'arrête, puis qui dit bah oui, oui. Et en fait, tu t'aperçois qu'elle capte tout.
Ouais.
Elle peut faire plein de choses en même temps, elle capte tout ce qui se passe. Et,
Bien sûr.
Non, mais c'est fou.
On a tendance à oublier, en fait, que les enfants, à partir d'un certain âge, nous entendent, quoi.
Ben, c'est ça. Et puis même un âge très, très, très oui. faible, quoi. Enfin, ouais. petit. Et en fait, comment ça s'est passé? Et à un moment donné, donc elle continue à lui parler. Elle la regardait et je trouvais ça hyper, hyper beau. Parce qu'elle elle mettait en mots tout ce que Marthe, si tu veux, n'allait pas mettre en mots avec sa bouche d'enfant. Et c'est comme si elle dénouait en fait dans son cerveau les choses et elle les clarifiait. C'était très clair parce qu'elle la regardait, elle disait oui et tout. Oui, j'en ai marre qu'il me parle tout le temps de ma maman. Mais elle dit mais tu sais, ta maman... Mais c'était très beau ça. Elle dit en fait, ta maman... Comment elle dit ça? J'ai plus les mots qui me viennent là tout de suite. Mais elle disait qu'elle elle est quand même présente et tout.
Et à un moment donné, alors je vais en venir au fait, parce qu'à un moment donné, Marthe vient vers moi, et elle me dit « Papa, viens, viens ». En ce moment, elle me dit à l'oreille comme des secrets, et elle veut que je les dise moi. Ouais, elle veut que je les... Elle me dit « Est-ce que tu peux dire à la psychologue ?» Parce qu'elle dit bien « psychologue ». « Est-ce que tu peux dire à la psychologue, s'il te plaît, qu'elle vienne dans ma classe ? Comme ça, elle dira à mes copains qu'ils arrêtent de parler de ma maman. » Elle me dit ça. Oh. J'ai dit « Oui, alors est-ce que tu veux que je le dise maintenant, Marthe ?» Elle fait « Oui, elle retourne jouer. » Donc là, je dis à la psychologue « Alors, du coup, Marthe m'a demandé de vous dire, donc je faisais un peu le jeu de rôle, quoi, que voilà, elle voulait que vous veniez dans la classe, comme je l'avais suggéré, bah, pour que pour parler à ses copains quoi, de la mort, de la vie, etc. » Et là, la psychologue me dit « Oui, Marthe, je comprends ta demande, je comprends très bien, et ton papa me l'a aussi demandé. Alors, assis-toi, parce qu'en fait, la réponse n'est pas forcément évidente. » Et là, je me dis « Ah bon ?» et tout. Puis elle me répondait à moi en même temps. Et en fait, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle dit « Tu sais, en fait, si je viens dans la classe, ça va être compliqué pour tes copains, parce qu'en fait, ils vont pas forcément comprendre. » Et elle m'a dit, et aussi à moi, elle dit « je vais pas venir. Je vais pas venir parce que... parce qu'en fait, toi, tu sais, Marthe, parce que tu l'as vécu. Mais en fait, un enfant de 4 ans qui n'a pas été face à cette situation, il va pas comprendre. Mmh. Il va pas comprendre, il va être face à un grand vide, à une grande question. Et donc, je vais pas venir. Mais toi, Marthe, tu sais qu'en fait, ta maman, elle est présente dans ton intelligence de la tête et dans ton intelligence du cœur. Tu le sais. Et si un copain vient te voir ou une copine vient te voir, te dit mais elle est où ta maman ? Tu peux leur dire ben moi je sais, mais ma maman elle est là. Je comprends avec mon intelligence de la tête et mon intelligence du cœur qu'elle est là, elle est présente. Et en fait, c'était hyper hyper beau parce qu'elle a compris en fait. Mais même moi aujourd'hui, hein, tu vois, je me dis, j'en ai parlé même à des amis qui sont dans la psychologie ou dans ce domaine-là, et ils m'ont dit mais je comprends pas, on peut expliquer à un enfant à la hauteur de son âge, quoi. Mais sur le coup, ça me paraissait très très juste. Elle dit en fait, un enfant ne peut comprendre l'irrémédiabilité de la mort qu'à partir de 6 ans. Et en fait, si je viens dans la classe et que j'en fais un sujet, la psychologue, hein, finalement, ouais. Elle avait cette position de dire, ben, il vaut mieux que Marthe, que j'explique à Marthe quelles sont les choses. Qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'elle ressent elle, etc. Et qu'elle ait les outils du haut de ses 4 ans pour répondre d'une bonne manière à ses camarades, si tu veux.
Donner la possibilité aussi de se détacher de, comme tu disais, de cette identification peut-être que les gamins viennent lui mettre dessus.
Et
c'est quoi.
Ça. Et en fait, a posteriori, je suis très content de ça parce que je me suis dit, ah ouais, c'était une bonne idée. Et moi, ça me paraissait, mais l'idée, il est super. Hein. Même la maîtresse, elle m'a dit, mais c'est une bonne idée, etc., etc. Et avec le recul, je me dis, bah non, en fait, ce que je croyais être une bonne idée, finalement, c'était peut-être une connerie parce que ça en aurait fait un sujet, ça aurait créé, effectivement, ça aurait renforcé son identité là-dedans, etc. Et en fait, c'est mieux de le vivre en intimité, cette chose-là. Et je pense qu'il y a des choses qu'on doit vivre avec soi-même, qu'on doit transformer. Tu vois, on parle de, ça me fait penser à Paolo Coelho qui dit transformer le plomb en or. Et en fait, il faut faire ce processus alchimique en soi-même et faut éviter de trop s'épancher, parler dans un podcast.
Non, et tu sais que tu viens parler, mais en fait, tu viens surtout être.
Et tout à fait. Ça, c'est super bien.
Je crois que tu parles, mais en fait, tu causes. C'est pas, t'es juste là, tu vois. T'as beau parler, en fait, on sent que t'as fait le taf.
Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que moi, je viens pas. Et d'ailleurs, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, mais ça t'a fait du bien, le podcast que t'as fait avec Fabrice, voilà, le premier. » Et en fait, je dis bah, « C'est vrai qu'à posteriori, en fait, c'était quelque chose de vraiment, même pour moi-même, qui était très bénéfique. » Mais je ne l'ai absolument pas fait pour ça. Et ça, je te l'avais dit d'ailleurs, je l'ai vraiment fait parce que j'ai fait le taf avec moi-même, tel que je l'entendais. Et quand je suis venu, c'était vraiment pour témoigner, pour que ça puisse potentiellement aider des gens. Et tu me dis qu'il y a eu un retour, donc je suis vraiment très content de ça. Mais effectivement, ce n'est pas un truc qui est recherché en premier lieu, quoi. Donc, ouais.
Et pour être tout à fait transparent, ça fait un an que tu me dis « J'aimerais bien revenir pour parler de la paternité et tout. » Et t'as fini par me dire, écoute, je suis pas prêt, en fait, j'ai besoin d'avancer, quoi, tu vois, à titre perso, et je comprends vachement, t'es là, t'es au bon moment, c'est très bien.
Ouais, t'as raison. Parfait. Non, c'est vrai que c'est ce qui s'est passé. Je sais même pas comment c'est venu et tout ça, mais à un moment donné, je sais plus si c'est toi ou moi qui avait parlé de ça, de la suite, parce que c'est vrai que j'avais ce sentiment de parler plus d'avoir envie de parler plus de paternité. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs fois où je me suis dit, ah ouais, peut-être. Et non, en fait, où j'ai un peu fait des allers-retours. Non, en fait, c'est pas bon. Puis il y avait plein de choses qui se jouaient, notamment sur le côté de l'école. Moi, c'était un vrai sujet, la mise à l'école de ma fille, avec les écoles alternatives, etc. Alors là, c'est pareil, c'est un vrai enseignement que j'ai eu à ce niveau-là. Mais ouais, il y a plein de choses qui se jouaient, il y a plein de choses qui se mettaient en place. Et là, aujourd'hui, je pense que c'est bien. C'est bien parce qu'il y a des choses qui se sont apaisées et c'est un peu plus clair pour moi. Ouais. Donc, c'est pour ça que je suis là.
C'est quoi les choses qui se sont apaisées?
Plein de choses, notamment la période transitionnelle entre la crèche et l'école pour Marthe. Parce que finalement, c'est vrai que ma vie est quand même... ça, je le dis en live à Marthe. Finalement, ma vie, elle est drivée par Marthe, quoi. Enfin, énormément. Pas que, mais c'est un vrai point central dans ma vie. Son évolution et ses périodes de vie. Et la crèche, ça se passait plutôt bien. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une maison. Il y a ça aussi. J'ai acheté une maison à l'extérieur de Nantes. Donc, j'ai voulu sortir de la ville... Pour acheter une maison, pour sentir que j'ai un chez moi, pour commencer à je suis designer et donc j'avais envie de composer l'espace tel que je le souhaitais, etc. Et ce déménagement a coïncidé avec l'entrée à l'école de ma fille, puisque ce que je voulais idéalement dans mon monde imaginaire et idéal, tel que on l'a tous, hein, tu vois, mais l'idéal n'est pas toujours amené à se réaliser, ça nous fait avancer quand même. Mais si tu veux, c'est ce que je voulais, c'est trouver une maison ou un habitat partagé et une école en même temps, au même endroit, une espèce de truc comme ça où tout converge. Et j'ai visité plusieurs écoles dans plusieurs coins de la France. J'ai visité plusieurs habitats partagés. Je suis même allé par exemple chez Ecoravi dans la Drôme. Vivre quelques jours avec eux, avec Marthe aussi, parce que j'avais ce besoin de vivre en collectif, parce que je sentais que c'est dur en fait d'être seul avec un enfant, et qu'en fait humainement, enfin là c'est un peu la parenthèse un peu personnelle, mais finalement ce monde capitaliste néolibéral incite à l'individualisme et chacun consomme. Et plus chacun consomme, mieux c'est, parce que ça fait augmenter, ça fait croître l'économie. Mais en fait, je pense que humainement, on est amené à vivre ensemble, à vivre collectivement dans des groupes intelligents qui s'entraident, voilà. Et donc j'avais cet idéal de l'habitat partagé. Et j'avais aussi l'idéal de l'école alternative, puisque selon moi, le modèle classique de l'école forme des gens, des futurs consommateurs. Et qu'en fait, c'est pas mal de se former dès la petite enfance à la collaboration, au côté un peu holistique, c'est-à-dire on va apprendre les mathématiques en comptant les arbres dans la forêt, par exemple. Je sais pas, c'est un exemple un peu bateau, mais voilà. Et donc, j'avais vraiment cet idéal-là aussi, de l'école de la forêt ou de l'école Steiner ou plus classiquement Montessori ou Freinet. J'ai cette tendance moi à m'étaler et à chercher très très large, et je me suis dit à un moment donné, non mais en fait t'as trop besoin des grands-parents, tu peux pas, faut que tu restes dans le coin de Nantes. En plus, quand je commençais des cours aux Beaux-Arts de Nantes, j'avais un réseau qui se mettait en place, donc je me suis dit il faut que je reste là. Donc une fois que j'ai vu plein d'écoles et plein de lieux, je me suis dit c'est cool, j'ai un bagage et je vois un peu ce qui se fait. Donc je regarde autour de Nantes et j'ai trouvé cette école dans le sud de Nantes. Et donc pour la faire très courte, en gros, j'ai cherché une maison autour du périmètre de l'école, j'ai trouvé une maison et pour finalement ne pas mettre ma fille dans l'école pour laquelle j'avais acheté la maison. Et la première année en petite section, ça s'est vraiment pas bien passé. C'était trop de bruit pour Marthe. Tous les jours, elle me disait « Mes copains, ils font trop de bruit. Moi, j'ai envie de lire dans la classe et je veux pas aller à la récré. » Mais en fait, dans l'école, on était obligé d'aller à la récré parce qu'il n'y avait pas de surveillance. Mmh. Enfin, c'est le système classique. Et donc, j'ai changé mon fusil d'épaule. Je me suis dit « Il faut que Marthe, elle aille dans cette école finalement. Donc j'ai recontacté l'école qui était finalement pas très loin à vélo, c'est faisable. Et en fait, c'était en plus très très cher, donc j'ai fait un appel aux dons et de manière incroyable, j'ai récupéré les dons. Mais en fait, pour la faire très courte, donc ça s'est très mal passé, le lien avec cette école-là. J'ai vraiment, vraiment pas du tout apprécié. Ça m'a fait beaucoup travailler aussi, hein, tant mieux. Et en fait, finalement, l'école...
Encore un deuil.
Ah ouais, encore un autre deuil. Non, mais tu as raison, tout à fait. C'est vraiment du lâcher-prise en permanence. C'est lâcher, 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 lâcher. Et pour connecter à ses émotions. Et il s'avère que cette école est fermée aujourd'hui. Ils ont fermé en septembre.
Okay.
Je sais pas ce qui adviendra par la suite, mais en tout cas, même s'ils rouvrent, jamais je ne mettrai ma fille dans cette école.
Ouais.
Et aujourd'hui, elle est restée dans la même école. Et ça va beaucoup mieux parce qu'en fait, ils ont fait des doubles niveaux. Et là, elle est avec 10 moyennes sections. Et en fait, ça va beaucoup mieux. Elle s'est adaptée, etc. Donc, il y avait à la fois le système classique, peut-être, où il y a eu une adaptation,
ouais.
L'école, et puis le fait qu'on venait de déménager. Enfin, tout était nouveau aussi pour elle.
Bien sûr.
Et pour moi aussi. Et on sait très bien qu'en tant qu'adulte, quand on est challengé, bah, l'enfant, il va aller forcément moins bien parce que si on va... Et ça rejoint la question des limites. Si on va pas bien, notre enfant, il va pas aller bien, en fait. Mmh. Tout simplement. Donc, il faut prendre soin de soi en premier. C'est pas égoïste, quoi, de faire ça.
Non. Mais on nous l'apprend pas.
Ah, c'est clair.
On nous le dit pas.
Bah oui. Puis on nous le dit pas. Puis en fait, naturellement, on a un enfant, on est responsable, donc on va s'oublier soi-même. On va se dire, bah non, il faut que je me concentre sur l'enfant. Parce que c'est vrai aussi, hein, si l'enfant...
Tu t'es oublié, toi ?
Ah ouais, carrément.
Ouais.
Et pourtant, c'est pas faute de bosser. Hein. Enfin,
ouais.
je le sais en plus à chaque fois. À la rentrée, je le savais. Je me suis dit, là, tu vas être chargé. J'ai de plus en plus de boulot en ce moment. Ça se réactive beaucoup aussi parce qu'il y avait toute cette question du travail aussi, hein, avec le deuil. Pendant 4 ans, moi, bah là, ça se réactive. Mais il a bien fallu 4 ans pour revenir au... d'avoir vraiment un rythme, et encore c'est pas fini, hein, d'avoir un vrai rythme de travail correct pour vivre et tout, parce que je suis indépendant.
Puis t'es créatif aussi.
Je suis créatif, ouais.
Et j'imagine à quel point cette claque immense, te déséquilibre totalement, quoi, tu vois, même dans ta créativité, quoi.
C'est
un truc que je projette peut-être, mais...
Bah, ça te déséquilibre, mais en même temps, moi, ça me renforce, c'est-à-dire que je suis devenu beaucoup plus radical, ce qui est un mot positif, selon moi, hein, mais je suis devenu beaucoup plus radical dans mon travail et dans ce que je fais, c'est-à-dire que... je sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas, ça te décoiffe un peu, on va dire. Pour finalement te renforcer, c'est-à-dire que c'est un peu ça. Moi, j'ai l'image de l'arbre qui est dans une tempête, qui est mouvementé par la tempête et tout. Mais en fait, du coup, qu'est-ce qu'il va trouver comme solution ? C'est qu'il va renforcer ses racines. En fait, il va pousser, il va s'ancrer encore plus dans le sol pour encore mieux tenir. Et c'est vraiment ce qui s'est passé en achetant cette maison. Jamais j'aurais pensé acheter une maison en périurbain, une maison individuelle dans du périurbain et tout ça. Eh ben en fait, jamais j'aurais pensé faire ça, parce que je me suis dit, mais laisse tomber, c'est le cercueil assuré, tu vois, c'est laisse tomber. Et en fait, c'est le meilleur truc que j'ai fait, en fait, en 4 ans.
Pourquoi ?
Bah parce que ça me donne une sérénité, un enracinement, c'est très personnel. Moi, j'ai tendance à être volatile, à partir dans plein de trucs, à être justement créatif, à avoir le cerveau qui est constellant, qui part dans plein de directions. Eh ben cette maison, moi, ça me pose, quoi, ça m'enracine, c'est calme. Et ça me rend beaucoup plus solide, quoi. Et ça me rend beaucoup plus inventif, notamment parce que moi je supporte pas de prendre ma voiture tous les jours, et là je me suis mis à j'ai trouvé un vélo électrique, je fais 15 bornes pour aller au bureau, et c'est des trucs que jamais j'aurais pensé possible quand je me suis dit waouh, c'est loin quand même, j'ai essayé sans vélo électrique au départ. C'était un peu fatigant. Les limites, elles sont vite. Et donc, j'ai trouvé un vélo électrique grâce à la ville de Nantes qui loue des vélos électriques. Ouais. Et en fait, c'est trop bien. Ça me rend trop heureux, quoi, de faire ça. Juste ça. C'est super. Donc, ouais, ça m'a enraciné, ouais, cette histoire.
Ok. On parle de ta vie perso.
Si tu veux,
hein. On n'est pas obligé. T'as commencé par là tout de suite. T'as dit, je suis pas officiellement en couple.
Ah oui, ouais. Vraie question.
Pas obligé, hein. C'est comme tu le souhaites.
Après, je peux. Non, mais si tu veux, en 4 ans, j'ai eu des relations. J'ai aussi eu des deuils à faire à ce niveau-là. C'est-à-dire que, par exemple, donc j'ai eu, honnêtement, j'ai eu je vais pas les dénombrer, mais j'en ai eu un certain nombre. Donc des relations avec des femmes, soit je me projetais pas, soit effectivement par deux fois je me suis projeté, mais il y a eu des paramètres compliqués. Et donc j'ai dû lâcher prise aussi. Donc les choses sont tout le temps en mouvement, et voilà, je sais pas ce qui adviendra, mais en tout cas à l'heure actuelle je suis pas en couple. Je suis plus dans cette envie à tout prix. Je serais vraiment heureux de me remettre en couple, et je serais même heureux, c'est étonnant de dire ça aujourd'hui, mais je serais heureux d'avoir d'autres enfants.
Ok.
C'est vraiment c'est en rencontrant du coup des femmes avec lesquelles je me sentais vraiment bien. Donc pendant ces 4 années là, où je me suis d'un seul coup dit, ah ouais, en fait, à un moment donné j'ai eu un tilt, j'ai fait, ah ouais, en fait, dans ces conditions, j'aimerais avoir un enfant, un autre enfant avec cette personne-là.
Ouais.
Et donc ça, c'est vraiment des clics.
Ça t'a fait quoi?
Ça m'a fait bizarre.
Ouais.
Non, parce que quand Marthe avait 6 mois, 1 an, 1 an et demi, j'étais tellement galéré, et je galère toujours d'ailleurs, que je me suis dit, mais laisse tomber, c'est fini, quoi. C'est exactement la même réaction que quand je suis sorti de ma
retraite. Dis que tu galères, c'est quoi?
Au quotidien, on parlait de les mains dans la merde. Okay. Ne serait-ce que moi, mon quotidien, tous les matins amener ton enfant à l'école, tous les soirs aller le chercher, et ensuite être créatif, donc avoir un peu d'esprit libre pour créer des projets, en plus faire des déplacements, parce que je travaille pas mal avec les parcs nationaux, donc en fait il faut que je me déplace. Donc l'organisation, c'est extrêmement épuisant au bout d'un moment. Donc moi il faut que je sois super organisé, et que j'ai des moments précis où je sais que là, je vais confier Marthe. Donc, je sais que de telle date à telle date, je vais être focalisé aussi sur Marthe. Donc, je vais avoir ce rythme-là, mais je sais que ça va s'arrêter à un moment donné. Toujours avoir des moments où ça commence, ça s'arrête, ça va, et je vais avoir des sas à un moment donné.
Ouais.
S'organiser ça, parce que sinon, je peux plus, quoi. Si j'ai l'infini du temps devant moi, je peux pas. Qu'on disait ?
Et mettre ça en rapport avec une vie amoureuse, ou en tout cas d'aller s'inventer une vie amoureuse, j'imagine à quel point c'est...
Ah oui, alors voilà, donc ça, il y a eu toute une progression en 4 ans. C'est-à-dire que les premières relations que j'ai eues, c'était peut-être... je vais te dire une bêtise, mais c'était peut-être 1 an et demi après, ou 1 an après le décès d'Anne-Charlotte. Les premières relations, c'était... moi, j'étais cash, hein, je disais. Alors en fait... ok, on peut se voir, mais en fait moi j'ai pas le temps, c'est-à-dire que j'ai absolument pas de place. Elle pourrait témoigner d'ailleurs, les personnes à qui j'ai dit ça. J'ai pas de place dans ma vie, c'est pas possible, j'ai un taf, je suis entrepreneur et créatif. J'ai un enfant que je dois gérer seul, je peux pas me mettre en couple. Par contre, on peut essayer, ou on peut se voir, ou je peux te dire quand je suis disponible, ou voilà. Donc c'est un peu space, hein, de dire ça, parce que ça fait un peu genre wow, le mec il met ses barrières, quoi.
C'est limite,
mes limites elles étaient bien là, c'était bien là. Et maintenant et ça va mieux maintenant quand même.
T'as réussi à les ouvrir un peu, parce que pour moi c'est aussi ça, tu vois, c'est réussir à s'ouvrir à l'amour finalement.
Oui, à se réouvrir à l'amour aussi. Puis tu sais, je pense qu'il y a peut-être un côté quand même de crainte aussi, de dire je me suis marié, tout était parfait, et bim, tout a disparu, quoi.
Non, mais bien sûr.
Et là je me dis waouh, attends, est-ce que si je me relance dans un truc, j'ai pas envie de ressouffrir comme ça, quoi. Est-ce que je pourrais l'assumer? Donc est-ce que j'y vais ou pas? Moi, ça c'est tout un travail, je me sens à l'aise avec ça. Je suis prêt à le revivre, si tu veux. Mais je pense que ce serait du challenge. Ce serait toujours pareil. Hein. De toute façon, toute notre vie, on est challengé sur ce qu'on doit travailler. Donc, je suis prêt, si tu veux. Je suis prêt à vivre ça. Clairement. Par contre, c'est au niveau logistique et timing. Ça n'était pas possible à un moment donné. C'est pour ça que je le disais. Et je voulais pas faire souffrir les femmes, en fait. Je voulais pas. enfin, les femmes avec qui je commençais quelque chose potentiellement, je voulais pas qu'elles se projettent sur des choses et que ça créait de la et créait de la souffrance, puisque ceci allait aussi moi me déstabiliser et je voulais surtout pas ça. Et aussi créer de la souffrance chez l'autre, évidemment, c'était pas du tout mon intention. Donc j'ai été très clair, mais aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui, je pourrais commencer une relation qui serait un peu plus, on va dire, un peu plus, je n'aime pas ce mot, normal, mais qui serait un peu plus...
Établi ?
Oui, établi, mais tu vois, où j'aurais plus de temps pour m'investir dedans, ouais. Quoi, c'est ça, en fait. Donc voilà, voilà, on va voir.
Ok. Ce sera pour l'épisode 3.
Ouais, c'est ça. Oui, on fera un point dans...
Pour ton deuxième enfant.
Dans 2 ans, ouais. Non, mais en tout cas, ça, c'est une vraie réalisation pour moi.
C'est ce que j'allais te dire. C'est que ça, c'est un truc, j'imagine.
Ouais. Ouais, c'est un truc. Et je sais pas si ça deviendra. Encore une fois, je suis pas... J'ai eu l'impression de... Voilà, je me suis marié, même si ça a duré 4 mois, en fait, parce qu'on s'est marié 4 mois avant son décès. Mais j'ai eu cette sensation, si tu veux, intime de m'être marié, d'avoir, si tu veux, comme le saut en parachute. C'est quand même un saut en parachute de vouloir se marier avec quelqu'un. Et j'ai fait ce saut-là. Je vois ce que ça fait, je sais. J'ai célébré ça. J'ai ce lien aussi intime avec l'invisible, hein, mine de rien. Enfin, je sais pas comment dire. Il y a quelque chose. C'est encore un autre sujet. Mais ce monde ne s'arrête pas à ce qu'on voit, en fait. D'ailleurs, il y a une super citation qui dit « Il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci. »
Ouais.
Je trouve ça magnifique. Je sais plus qui a dit ça.
C'est génial.
C'est très beau. Donc voilà. Je sais.
C'est quoi ton lien avec l'invisible ? Tu veux qu'on en parle ?
Ouais, je voulais dire un autre truc avant, j'ai oublié. Je sais plus ce que je disais. Mince.
C'est pas grave.
Bah, est-ce que c'est tellement. Bah, je sais plus. C'est pas grave.
Tout est parfait.
Je m'en souviendrai certainement en réécoutant le podcast. Mon lien avec l'invisible, il est très intime.
On n'est pas obligé d'en parler là, hein, si tu veux.
Non, mais si tu veux, moi, ça me dérange pas, si tu veux. Quand je dis il est très intime, c'est pas tant qu'il est... Bah, c'est dur de mettre des mots dessus, hein, mais c'est sûr. Mais c'est juste que c'est quelque chose qui est au plus profond de moi, en fait. Intime, tu vois, dans le sens là. Comment dire ? Le lien, il est dans le quotidien. Il est... Je trouve ça dur, en fait, de mettre des mots, effectivement, parce que ça limite toujours.
Ouais.
Mais moi, je suis pas pratiquant d'une religion. Je me sens chrétien, mais pas catholique. C'est-à-dire, je vais pas à l'église. Enfin, j'aime bien aller dans les églises, mais je vais pas à la messe. Ouais. Je me sens pas dans une congrégation, mais une paroisse, voilà, un truc comme ça. Je suis pas bouddhiste non plus, mais je suis sensible à ça. Donc je fais beaucoup de méditation. Méditation, pour moi, c'est juste très très simple, hein. C'est juste me poser et lâcher prise et me revenir à aux sensations du corps. Eckhart Tolle est super bien à ce niveau-là, le pouvoir du moment présent.
Ouais.
Et je me sens chrétien parce que sont finalement les racines de la spiritualité française, enfin pas française, j'allais dire occidentale, mais il y a des racines ici. Je me sens relié à ces racines de spiritualité chrétienne. C'est dans le quotidien, c'est-à-dire que... En fait, c'est ce que je voulais dire dans le côté intime, c'est que ma spiritualité, elle est reliée à chaque instant, dès que je reviens à moi-même, en fait. Mmh. Et c'est plutôt ma vraie identité, c'est-à-dire c'est dès que je dépasse le côté égo, ou c'est dès que je suis non réactif à des choses parce que je sais que ça touche à la surface de moi-même, le côté, par exemple, je sais pas moi, si quelqu'un va m'insulter, ou c'est un exemple complètement basique, mais eh ben il y a quelque chose qui va réagir, mais en fait au fond de moi je serai non réactif, parce qu'en fait ça touche la surface, la peau, et en fait au fond si je sais que c'est un problème avec la personne en tant que telle, si moi je suis en faute, je vais m'excuser, ou je vais dire ce pourquoi j'ai mal agi, par exemple, mais je vais pas forcément le prendre personnellement. Ça me fait penser aux accords Toltec, quoi, tu sais, ne pas prendre les choses personnellement. Et donc, en fait, cette spiritualité, elle est très fonctionnelle, en fait. Elle est très concrète. Et cet invisible-là, je pense qu'il est... On y a accès en étant au plus intime de soi-même dans des situations extrêmement banales du quotidien. Donc, c'est l'exceptionnel du banal, en fait. C'est comment accéder... Et donc, c'est l'instant présent. C'est comment accéder à l'instant précis et ne pas être, comme dit Eckhart Tolle, dans le temps psychologique, c'est-à-dire... Quand je suis dans le passé, donc quand je suis dans le temps psychologique, c'est que je suis soit dans le passé, soit dans le futur. Donc là, si je suis avec toi et que je pense à ce que j'ai fait, par exemple, pendant mon séjour parisien, et que je suis, et que je, en même temps que je te parle, je ne suis pas vraiment présent. Mmh. Si je pense à ce que je vais faire en revenant à Nantes et à tous mes projets en cours, je suis dans le temps psychologique. Ouais. Par contre, si je suis là très précisément, très centré sur le micro, sur le, je sais pas moi, sur mon corps et les sensations de l'instant présent, eh ben, je suis d'une certaine manière connecté à une certaine spiritualité et d'une certaine manière à l'invisible.
D'une certaine manière à ta femme.
Et d'une certaine manière à ma femme qui a rejoint l'invisible. Mm. Mais comme dit la psychologue Amart, eh ben, on sait qu'elle est là avec l'intelligence de la tête, mais aussi avec l'intelligence du cœur et finalement du corps et des tripes, quoi. Et je sais qu'il y a cette présence, mais qui est très difficile à expliquer.
Ouais.
Parce que c'est une présence qui fait le même effet que ce que fait ma maison. C'est-à-dire que ça me plonge. Si tu veux, t'es pas dans la tête, ça te plonge vraiment dans un truc qui est vers le cœur, mais même qui descend un peu vers le plexus solaire, qui crée quelque chose qui rentre dans le sol, quoi. Donc ça m'installe, quoi. Si tu veux, je suis installé là. Et c'est des choses. Bah, qu'on, tout le temps, on en sort, évidemment. Mais on peut y revenir. On a le choix. On a le choix, en fait. Et effectivement, si quelqu'un m'insulte, j'ai le choix. Soit de réagir en surface dans ce monde, soit de m'ancrer et de m'installer en moi dans l'autre monde qui est peut-être plus véritable, quoi. Tu vois. Mais bon.
Plus aligné pour toi, en tout cas.
Pour moi, ouais, c'est très, très. C'est pour ça que je disais que finalement, c'est personnel et intime, oui. Dans le sens où c'est, tout ça n'engage que moi.
Et franchement, je sais pas
et
comment.
Et mon expérience.
J'allais dire, je sais pas comment les gens qui écoutent vont entendre ou écouter ce que tu racontes, mais c'est trop intéressant.
Ouais, ça va peut-être paraître perché. En fait, en l'occurrence, moi, ça ne l'est pas. C'est très, très concret, quoi. C'est
franchement, vraiment... vu ton histoire, il y a un alide. Ça fonctionne, quoi, tu vois. Il y a une sorte d'alignement.
Le storytelling.
Non, pas le storytelling. Putain, mec. Transforme pas ça en post LinkedIn, putain. On est en train de passer un bon moment là.
Non, non, mais
là, t'es là,
c'est
putain.
Très, c'est très honnête.
Tu sors des gros mots comme storytelling, au secours.
C'est une blague.
Non, 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 ce que je voulais juste te dire, c'était pour moi, en fait, je suis pas sûr que t'en serais là aujourd'hui par rapport à cette spiritualité que t'as en toi aujourd'hui si t'avais pas vécu ce que t'as vécu, quoi. Donc.
Ouais, c'est sûr, ça c'est sûr. Mais il n'y a pas que le vécu, il y a le fait d'accepter et de transformer. C'est encore une fois de transformer le plomb en or. C'est-à-dire que tu peux vivre les trucs horribles, enfin, tu peux, de la souffrance, ou etc. Mais encore faut-il travailler, quoi. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Donc, j'en ai parlé la dernière fois avec Maggie Méchineau. J'ai fait des sessions collectives où tu revisites tes émotions, tu revisites tes sensations. Tu vas creuser. J'ai même fait une session d'un jeûne de 7 jours en travaillant psychologiquement, donc ça va super loin.
Je mettrai un lien dans les notes pour les gens qui veulent réécouter ton premier épisode ou l'écouter.
Ouais.
Parce que t'en parles longuement, quoi.
Oui, oui, c'est vrai que j'ai déjà parlé de ça.
Non, mais t'inquiète.
Mais ouais, donc il faut le. Oui, il faut transformer le truc, quoi. Parce que. Enfin, il faut le fertiliser, quoi.
En tant que designer, ça marche, j'imagine. Cette idée de transformer une matière en une autre.
Bah c'est ce que je dis d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit aux étudiants que j'ai aux Beaux-Arts. Et ça me fait penser que, tu vois, quand je reviens vraiment au centre, j'essaye de me poser en moi, et ben ça me rend... C'est-à-dire que maintenant, quand je vais, bon, de manière un peu... Pas tout le temps, mais en général, quand je vais faire une présentation devant du public, par exemple, et ben je vais plus avoir ce stress vraiment, un peu, si tu es agité, qui va te détourner de ce que tu veux vraiment dire. Parce que ça va, on revient, et on revient à son sujet, et à l'instant présent, et aux sensations, et ça fait disparaître l'espèce d'agitation. Et c'est ce que je dis aux étudiants aussi, Enfin, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que ça me revient. C'est qu'en fait, moi, dans ma vie, tu me parles du monde travail de designer. Ben, en fait, il y a une porosité qui est de plus en plus très de plus en plus claire entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et très longtemps, j'ai voulu mettre des barrières, justement. C'est ma vie pro, j'ai mon travail de bureau et puis j'ai mon travail à la maison. Et en fait, il n'y a plus de différence. Mmh. Parce que je suis là, j'ai fait une résidence dans le Périgord pour valoriser les artisans locaux et tout ça. Et ça m'a demandé vraiment des semaines sur place. Et ben, j'y suis allé avec ma fille, grâce aux organisateurs là-bas. Ils ont accepté. Et j'ai trouvé une école alternative. Donc, j'ai quand même pu vivre cet idéal de l'école alternative là-bas. Aller à l'école des Girafons quelques temps. Et si tu veux, évidemment, tu es en résidence. Donc, je travaille. J'ai mon travail créatif et professionnel. J'ai une conférence, d'ailleurs, où ma fille était là. Et ben en fait, j'ai aussi vécu ma vie quotidienne et je l'ai emmenée à l'école tous les matins. Et ben en fait, tout se mélange. Et évidemment que mon projet, il va parler de ça aussi. Et donc, quand tu me parles de mon travail de designer, pour moi, c'est la même chose que dire mon travail d'humain, tout simplement. Mmh. Parce que dans mon travail, j'ai envie de diffuser aussi des valeurs que je porte en tant qu'humain. Et en fait, finalement, c'est la même chose, quoi. Mmh. Mmh.
D'aller de plus en plus vers un truc qui soit le plus aligné possible.
Ben, avec toi, quoi, finalement. Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est ça, il n'y a pas de dissociation.
Il n'y a pas de pro, de perso, de machin, c'est juste toi, comme tu as dit, en tant qu'humain.
Ça me fait penser à...
En tant qu'être. Hein.
Ouais, en tant qu'être. Ça me fait penser à Pablo Servigne, super intéressant, qui parle d'être dissocié. Et que l'idée, c'est d'être le moins possible dissocié et de revenir au corps et aux sensations qu'on a appris à ne pas écouter.
C'est très important de ne pas écouter. Les sensations. Ça évite de ressentir des trucs.
ouais, non, c'est vraiment le sujet. Ben,
mais c'est dur aussi d'ouvrir cette porte-là, quoi. T'as pas eu le choix, toi, finalement.
J'ai pas eu le choix. Après, j'étais sensible à ça avant, quand même. C'est peut-être une chance. Oui. Mais à l'école, il faut absolument apprendre qu'il y ait des cours pour ça, quoi. Ouais. L'écoute des sensations. Tu vois, moi j'ai fait des retraites Vipassana. J'ai une amie qui. Sa fille vient d'avoir 8 ans.
Retraite de Vipassana, pour les gens qui ne l'ont pas, c'est...
C'est des retraites de 10 jours dans le silence, où il y a 10 heures de méditation par jour. Pendant 10 jours, on ne parle pas.
On ne regarde pas les autres.
On ne regarde pas les autres, on n'a pas de crayon, pas de livre, pas de téléphone, pas d'ordinateur. Et donc, on est vraiment centré en soi. Et donc, on est obligé de faire face à ces émotions et on se dit... Ah ouais, en fait, c'est ça mon cerveau. Ah ouais, c'est ça. Et moi, c'est là où je me suis aperçu. Je vais arrêter ma digression après, mais c'est là où je me suis aperçu que mon cerveau, en fait, lançait des idées en l'air, comme ça, des espèces de souvenirs, des réminiscences, des trucs. Et qu'il en lançait une, et puis ensuite une autre qui n'avait absolument rien à voir l'une avec l'autre. Et que finalement, j'avais cette tendance inconsciente à vouloir les relier et à créer du sens avec ça. Ce qui n'a aucun lien et ce qui est complètement inutile. Donc, faut laisser faire, quoi. Mmh. C'est incroyable. Et c'était une...
Le mental a envie de récupérer tout, hein.
Tu vois, de récupérer, tout interpréter et de tout comprendre et de survivre dans la jungle pour pas se faire bouffer par un dinosaure. Mais sauf que, en fait, c'est pas utile. Mais il faut l'apprendre, quoi. Et on peut pas. Et donc, mon amie Yasmine a envoyé sa fille... sa fille a voulu aller faire une retraite Vipassana à 8 ans. Et c'est les retraites pour enfants. Mm-hmm. Et si Marthe avait envie, à 8 ans, de faire ça, franchement, ce serait super. Mm-hmm. Parce que je pense que c'est génial d'apprendre tout de suite, enfin, le plus tôt possible, à écouter son corps et ses émotions. Parce que les enfants, ils le font naturellement, en fait, aussi, je pense. Et petit à petit, ça se déprogramme. Et...
Petite pensée pour les profs des écoles qui avaient lancé dans un... Alors, je ne sais plus exactement dans quelle académie, un test de méditation pour les gamins à l'école publique. Et en fait, il y a eu une opposition. Ils ont arrêté parce qu'ils étaient obligés de faire rentrer des organismes extérieurs, si tu veux, pour faire venir... faire méditer les gamins. Et donc, il y a eu tout de suite ce truc de venir projeter sur de la méditation pleine conscience qui peut être laïque, en fait, enfin, qui est laïque, en fait, hein, globalement, qui peut être lié à une religion, mais qui peut être aussi totalement laïque.
Qui l'est, oui, tout à fait.
Oui, c'est toi qui décides, en fait.
Oui, c'est concret, quoi.
Et donc, ouais, ils avaient peur, quelque part, que ça vienne faire rentrer la religion dans l'école. Et en plus, je peux comprendre, tu vois, cette trouille-là, mais c'est dire à quel point on est encore loin, on a encore du chemin à faire. Quoi,
c'est fou cette peur à chaque fois, il y a cette peur de dérive sectaire.
Ouais.
Dès qu'on dit un truc un peu alternatif, attention, dérive sectaire.
Ouais, non, mais c'est normal. Enfin,
ouais, mais
dans la société dans laquelle on est, moi, je comprends. Hein, tu vois, ça fait partie des trucs qui nous empêchent de penser.
Oui.
Et il sait que ça existe en plus. Tu vois, faut pas dire que ça n'existe
bien
pas.
Sûr.
Bien sûr qu'il y a des sectes.
Faut être vigilant, évidemment.
Ouais, tout à fait.
Surtout dans ce domaine-là, c'est sûr.
Mais pas forcément.
Voilà.
Peut aussi être de la peur, simplement.
Oui. Oui, et puis d'ailleurs, notre cerveau va inventer tous les stratagèmes possibles pour ne pas faire face à tout ça, puisque ça le fait disparaître.
Bien sûr.
En fait, c'est comment vivre. Ah, mais ça, c'est trop bien aussi. C'est comment expérimenter la mort en étant vivant. Et c'est magnifique, ça, parce que tu meurs à ton ego, et donc tu vas vraiment plus profond. Et c'est mourir, c'est pas un gros mot, en fait. C'est magnifique. Et il faut apprendre à mourir, voilà. Et il faut pas que ça soit un tabou, quoi. Et moi, j'ai appris ça aussi, même la mort ultime, c'est-à-dire mourir, c'est-à-dire vraiment mourir, le cœur arrête de battre et on va se décomposer, et notre corps va se décomposer. Et ben,
la mort physique, tu veux dire.
La mort physique, eh bien, ouais, mais bon. Mais la mort physique, donc de cette vie-là, eh ben, c'est un passage et c'est pas. Ça n'existe pas. D'ailleurs, il y a un bouquin qui est sorti, je sais plus qui l'a écrit, c'est La mort n'existe pas.
Stéphane Alix.
Ah, c'est Stéphane Alix, voilà.
Qui est exactement. Reporter, grand reporter et tout, que j'espère pouvoir interviewer bientôt.
Excellent.
Et je suis en train de lire son bouquin. Donc, il a été interviewé plein de gens qui ont vécu des expériences de mort imminente. Et lui, il vient avec son background de journaliste sceptique en plus, hein, tu vois,
oui.
Pour venir interroger, regarder le truc tel qu'il est. Donc, il est allé voir des chamans, enfin, bref.
Très intéressant.
C'est... Effectivement, mais il reporte, tu vois, c'est un vrai truc de reportage, quoi. Ce bouquin parle aussi de sa fille, parce que son frère est mort, son frère à lui est mort.
Oui.
Et sa fille était petite, en fait, quand son frère est mort. Et donc, il raconte son chemin, c'est trop intéressant.
C'est hyper
ça
bien.
Ça vient de sortir, il y a quelques semaines.
Il y a le livre Le Test aussi qu'il a fait.
Oui.
Enfin bon.
Stéphane Alix, le travail de Stéphane Alix d'une manière générale, pour les sceptiques, je trouve ça assez cool parce que moi-même je suis sceptique, hein, tu vois, je me considère vraiment comme sceptique et de regarder, de pas juste bouffer tout ce qu'on me raconte, quoi, tu vois, je trouve ça hyper important, surtout dans notre époque.
Oui, tout à fait.
De regarder les choses en face et de se dire, est-ce que je suis ok avec ce qui est en train de se raconter, de le mettre en doute et tout, quoi.
Oui, oui. Et je te suggère de faire un nouveau podcast, Histoire de spiritualité.
Bah. J'aimerais bien faire histoire de mort.
Histoire de mort, bah c'est histoire de mort, ça veut dire histoire de vie. Hein.
Je sais bien. Mais non, mais c'est ce que ça raconterait, n'est-ce pas? Bien sûr. Tout comme dans l'histoire d'argent, on ne parle jamais d'argent, finalement.
Ouais.
Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je ne t'ai pas amené? T'es venu avec un bouquin aussi, tu voulais.
Ah oui, oui.
Tu voulais lire un truc?
Merci, j'avais oublié. Ouais, j'aimerais bien lire un extrait. En fait, c'est un extrait d'un livre de Christiane Singer que j'adore. Enfin, j'aime pas ce mot j'adore, mais en tout cas, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et le livre s'appelle Les Sept Nuits de la Reine. Et en fait, elle parle. Alors, je suis en train de le lire, mais elle parle de sa vie finalement et de différentes périodes de sa vie. Mmh. Et notamment, dans une des nuits, parce qu'il y a sept chapitres, donc sept nuits. Et elle parle de son expérience de la naissance. Et je trouvais ça super par rapport au podcast Histoire de Daron. Et de demander ce qu'on a vécu lorsque notre enfant est venu au monde. Et elle dit cela. Donc c'est à la page 113. Quand je reçus dans les bras ce fils qui venait de naître, j'eus une révélation qui m'électrisa. Moi qui jusqu'alors avais cru à l'existence des bébés, je cessais sur le champ d'y croire. Cette minuscule créature que je contemplais les yeux écarquillés était une personne à part entière, crissante d'histoire et de mémoire, et qui, de ses yeux couverts de prunes, fouillait l'opacité du jour à la rencontre de quelqu'un.
Waouh.
Ben, tu vois, c'est vraiment ça. Et pour parler de c'est vraiment un être, quoi. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu avec Marthe, c'est que tout de suite, je lui ai expliqué les choses, quoi. Et ça a créé une... Ben voilà, on a pas des enfants en face de nous, on a des êtres, quoi. Mmh. Et, ouais.
C'est marrant parce que ça me renvoie, et c'était un bail, hein, quand même. Moi, c'était il y a 17 et 15 ans, instantanément, à la rencontre avec mes filles, quoi.
Ouais.
De les regarder dans les yeux et de voir qu'il y a... Waouh,
wow. Il y a tout un univers.
D'où ça vient.
Ouais. C'est fou. Moi, c'était une nuit à l'hôpital où je lui ai donné le biberon et d'un seul coup, elle a ouvert les yeux, mais fou. En un quart de seconde, elle m'a regardé. Et ça m'a pris au trip, quoi. Mmh. C'était fou. Ouais, c'est fou.
C'est ça aussi, histoire de daron.
Ouais.
Cette bonne claque que tu prends dans la gueule.
Voilà. Ouais. Ça fait du bien. Ça remet les idées en place.
Merci Amaury.
Bah merci. Hein.
C'était
merci
génial. Beaucoup. J'ai adoré. Ce petit moment.
J'aimerais bien que ça continue. C'est trop bien de discuter.
Bah tu reviendras. Épisode
dans,
3.
Dans 3 ans.
Quand tu voudras. Pour l'âge de raison. C'est à 7 ans, c'est ça.
Oui, il paraît.
Un grand merci à toi.
Merci beaucoup Fabrice.
Salut.
Ciao.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.